De retour à l'émission Libre-Échange. On retourne dans le temps, il y a 11 ans, à pareille date, en septembre. On parlait donc du golfe du fleuve Saint-Laurent qui était, dans le fond, la proie d'une marée rouge qui était très étendue. Et cette marée rouge avait causé la mort de plusieurs mammifères marins et de milliers d'oiseaux. On va en parler avec M. Michel Starr, qui est chercheur en écologie du phytoplancton, qui, d'ailleurs, au moment de cette marée rouge, avait travaillé sur ce dossier-là. Bonjour.
Bonjour.
Disons que c'était une marée rouge assez exceptionnelle là, par sa grandeur, l'étendue et les causes aussi, l'impact que ça avait eu sur l'environnement.
Oui, tout à fait. C'était un événement qu'on n'avait jamais vu encore dans l'estuaire du Saint-Laurent, particulièrement par les impacts qu'elle a eus sur l'écosystème, puis toutes les causes de mortalité, toutes les mortalités qu'elle a causées. La marée rouge a causé des mortalités de 10 pelugas, des centaines d'oiseaux, plusieurs phoques et des milliers de poissons.
À l'époque, c'était assez étendu, là, cette marée-là. On parlait de plusieurs kilomètres carrés.
Oui, effectivement, c'était les survols en hélicoptère nous ont révélé qu'à l'époque, que cette marée-là couvrait environ 600 kilomètres carrés.
Comment tout ça avait débuté?
Cette marée rouge a été, c'est une petite algue microscopique qu'on appelle Alexandrium tamarens. C'est une espèce qui qui a tendance à faire des marées lorsque il y a beaucoup de précipitations. Et à l'époque, c'est justement, il y avait eu 3 jours de grosses pluies. Ça totalisait pour les 3 jours environ 130 mm qui avaient tombé en 3 jours. Et ça, l'algue aime énormément ces précipitations. Ça augmente les débits des rivières et ça augmente la stratification de l'eau. Et ça, c'est les conditions que Alexandrium aime bien.
Parce que, bon, elle se retrouve en eau salée. Donc, j'imagine, c'est ça. Donc, quand il y a de la pluie comme ça, c'est l'eau douce qui se mêle. C'est un mélange de certains, ça prend certains critères là, pour l'avoir éclore comme ça, c'est ça?
C'est ça. Ça augmente le débit des rivières qui se jettent dans l'estuaire. Et il y a plusieurs facteurs qui favorisent la prolifération parce que c'est ces eaux douces qui tombent sur au fleuve amène aussi des éléments nutritifs et qui favorise aussi la prolifération de Alexandrium.
Vous avez parlé des impacts, évidemment, énormes, plusieurs décès là, d'oiseaux, de poissons et de mammifères marins. Qu'est-ce qui se produisait à l'époque? Qu'est-ce que cette algue-là a pour effet ou quelles sont les répercussions justement sur les organismes vivants?
L'algue produit une toxine assez foudroyante. C'est aussi, si on compare au cyanure, c'est 100 fois plus toxique que le cyanure. Et c'est une neurotoxine. Chez l'humain, si on ingère cette toxine-là, qu'est-ce qui se produit? C'est un arrêt respiratoire. Et qui peut causer la mort. C'est une paralysie qui se produit avec cette algue, cette toxine-là.
On a parlé beaucoup de l'impact, j'imagine, est à peu près pareil ou similaire chez les mammifères marins. Là,
Effectivement, c'est une neurotoxine qui cause une paralysie des organismes, puis éventuellement entraîner la mort.
On avait eu beaucoup de craintes pour les bélugas à l'époque, hein, 10 bélugas, parce qu'on sait que la population a diminué considérablement. Là.
D'autant plus que c'est ça, la marée rouge s'est produite dans le secteur l'habitat du béluga. 10 mortalités en deux, trois semaines, c'est beaucoup. Et pas particulièrement pour une population qui est relativement petite, là.
À l'époque même, pour la santé humaine, on avait pris des précautions, hein, pour s'assurer justement qu'on n'entre pas en contact ou dans la chaîne alimentaire aussi?
Oui, parce que là, cette algue-là peut se retrouve dans la chaîne alimentaire. Il y a les mollusques qui filtrent, les moules, par exemple, filtrent l'eau et absorbent, accumulent cette toxine-là. Et les moules deviennent relativement très toxiques. C'est pour ça qu'on voit souvent sur les côtes les pancartes en disant ne pas récolter les mollusques. Souvent, c'est causé à cause de la présence de cette algue-là.
C'est bon de le savoir aujourd'hui parce que les gens, on voit la pancarte souvent et on se dit, bon, est-ce que vraiment il y a un danger? Je pense que là, on vient de révéler un peu l'effet de cette toxine-là. C'est la même qu'on peut retrouver dans les mollusques quand on avertit les gens de ne pas les consommer ou de ne pas d'aller les cueillir. Là.
Okay. C'est prendre au sérieux.
Alors oui, je le comprends encore plus aujourd'hui, puis je crois que ceux qui sont amateurs vont le comprendre rapidement. Alors c'est assez direct comme toxine. Est-ce qu'une marée rouge de cette ampleur-là pourrait se reproduire?
Effectivement, ça prend juste les bonnes conditions pour qu'il y ait une prolifération d'algues toxiques. Effectivement, si on regarde à travers le monde, il y a des augmentations de ces marées rouges-là. La fréquence, l'intensité augmente à travers le monde. Il y a plusieurs causes à ça. Les changements climatiques, effectivement, qui peut favoriser l'augmentation de ces floraisons-là. Par exemple, on s'attend à plus de précipitations, par exemple, dans nos latitudes, des précipitations très intenses avec les changements climatiques. Et donc, ce serait des choses favorables aux floraisons d'algues toxiques.
Et est-ce que le réchauffement de l'eau peut avoir une incidence aussi?
Le réchauffement des eaux aussi peut avoir une incidence sur augmenter les floraisons d'algues toxiques, effectivement.
Est-ce qu'on a eu d'autres épisodes après 2008 de marée rouge comme ça, ou de plus petites peut-être, dans le Saint-Laurent?
Oui, c'est un phénomène récurrent, là. Mais jamais de cette ampleur-là de 2008. Là. Ça a été encore... C'est encore un phénomène assez spécial, la floraison de 2008.
Et quand c'est parti, donc cette toxine-là, ou en tout cas cette algue-là se multiplie, est-ce qu'il y a possibilité de l'arrêter ou d'intervenir, ou il faut attendre carrément que ça disparaisse?
Il y a très peu de méthodes pour arrêter une floraison de la toxique. Les choses qu'on peut faire, c'est, comme qu'on a fait en 2008, prévenir la population, essayer de minimiser le plus possible les impacts. À l'époque, par exemple, pour le béluga, on avait réduit les vitesses des bateaux dans le secteur parce que, la toxine, comme je mentionnais, a tendance à paralyser les organismes. Donc, on essayait de donner une chance le plus possible aux bélugas.
Bien, comment elle a disparu, cette marée-là, finalement? Tiens, si on peut regarder 2008, là, 600 km² de marée rouge et d'algues toxiques, c'est disparu comment?
C'est suite, il y a eu beaucoup de vent. Cette algue-là n'aime pas les mers déchaînées un peu. Donc, le mauvais temps est arrivé et ça a dissipé cette marée rouge-là.
Combien de temps aura-t-elle duré? Parce que là, on était en septembre. Là. Je ne sais pas, l'épisode a duré combien de temps?
Ça a été environ 2 à 3 semaines.
Quand même, mais en 2-3 semaines, causer autant de dégâts. Ben, Michel Starr, donc chercheur en écologie du phytoplancton, du côté de, vous travaillez pour l'Institut Maurice Lamontagne, c'est ça, et Pêche Océan Canada, c'est bien ça? Oui, ben merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui, ce retour dans le temps et cette explication concernant cette marée rouge et surtout cette algue toxique, l'Alexandrium tamarans, qu'on peut retrouver dans les moules qu'on cueille à la plage si on ne fait pas attention, évidemment, aux avis. Alors, merci bien.
Merci.